Tribune de la presse, c'est parti pour ce soir. Fidèles auditeurs de la radio Capi, bienvenue à vous tous. Au micro, Freddy Bikumbi Ignace. Avec des confrères journalistes, nous allons débattre sur les audiences de consultation pour la formation du gouvernement d'Union nationale. Le président de la République a chargé son conseiller en matière de sécurité, Cachemire et Bérande, de rencontrer le point de vue des acteurs politiques, ceux de la société civile, en vue de prendre leur desiderata autour de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Déjà, des grandes figures de l'union sacrée de la nation ont été reçues. L'opposition boude ces consultations et la société civile un peu indécise. Et en deuxième partie de cette tribune de la presse, nous toucherons la question de la résilience communautaire dans les zones occupées par les Rwanda via le M23. 2 mois en ville de Goma, sans aucune banque qui ouvre ses guichets. En revanche, le M23 veut ouvrir la CADECO, la caisse d'épargne de fonctionnaires de l'État congolais à majorité. Qu'en pense le journaliste congolais? Je suis avec Esdras Kahoma, journaliste et directeur de la radio communautaire Nyanya Amkeni. C'est à Ituri. Bonsoir.
Bonsoir, chers confrères. Bonsoir aux auditeurs de Radio Capi. Bonsoir aux confrères avec qui nous sommes dans cette émission de la presse.
Je précise, vous êtes à Mambasa, mais aussi vous êtes reporter du média en ligne buniaactualité.cd. Beledou Dou Jésus, bonsoir.
Bonsoir Freddy, bonsoir aussi à d'autres confrères et aux auditeurs de la Radio Capi.
Vous êtes journaliste, éditeur de libertéactu.net, ici à Kinshasa.
Exact.
Et Crispin Focas Mayimbu, bonsoir.
Bonsoir Freddy Bikumbu, bonsoir les amis qui sont avec moi dans ce débat.
Vous êtes journaliste, reporter et directeur général de la radio Soleil FM émettant Kananga, c'est au Kasaï. De même, correspondant du média en ligne, laplumeinfo.net. À vous tous, bienvenue. Mimi Kindou est à la technique. Nous ouvrons cette tribune de la presse. Je vous laisse commenter l'actualité dans votre zone de travail. Crispin Focas Mayimbu.
Merci de l'opportunité que vous donnez à la province du Kasaï central et à ma modeste personne. Je suis très heureux de cette opportunité. Et si il faut parler de la province du Kasaï central, plus précisément ici à Kananga, l'actualité est dominée par cette rareté de l'eau potable qui ne coule plus au robinet. Ça fait de cela plus de 14 jours aujourd'hui, l'eau ne coule plus. Et la régie des eaux accuse un déficit criant de gasoil pour faire tourner ces machines qui produisent de l'eau pour la population du Kasaï central. Et même l'électricité qui était servie déjà à partir des 19h, cette électricité, il y a des jours où ça ne vient pas et des jours où ça arrive en retard à partir des 20h, 21h. Donc c'est ça un peu la situation sur le plan social. Il y a aussi, depuis avant-hier, ça fait aujourd'hui 3e jour que les journalistes, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile sont dans un atelier de formation avec l'UNESCO en partenariat avec PNUD et UNIFEM. Ils sont en train un peu de revoir les élections, les processus électoraux qui se sont déroulés et surtout chercher à passer en revue les rôles que les médias ont joués pendant ces élections et donner aussi les perspectives d'avenir pour la réussite des processus électoraux qui vont suivre. L'activité se passe à l'hôtel 12 Maison de Kananga.
Merci, on va vers Ituri avec vous Esdras Kahoma, quelle est l'actualité?
Merci cher Freddy, merci à Radio Kapi de m'offrir cette opportunité. Mon avant-goût informationnel, cher Freddy, c'est le silence des autorités sur la question de la présence massive des éléments FADC et de la police dans les sites miniers tenus par les Chinois dans le territoire de Mambasa, particulièrement dans les chefferies de Bandaka et Bombo. Cette question est soulevée chaque fois par nombreuses structures de la société civile dans ce territoire, mais sa réponse favorable. Dès lors qu'il y a un besoin accru des forces de sécurité dans les zones sécurisées par des incursions répétitives des terroristes ADF dans la chefferie de Babila Bakwanza et dans la chefferie de Babila Bombi. Il faut aussi noter que les sociétés chinoises sont auteurs de déforestation dans les endroits où il faut l'exploitation minière dans les territoires de Mombasa. Et ceci a des conséquences sur l'écosystème et au changement climatique. Et je vais terminer mon avant-goût informationnel par la poursuite des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4 par la société Good News Africa sur les tronçons commandes à Bakougi, long de plus de 300 km. Et ici, sincèrement, cher Freddy, les travaux évoluent normalement. Les travaux qui ont débuté depuis le 10 octobre de l'année écoulée évoluent comme il se voit comparativement à la société Prémilis qui était remplacée sur ces tronçons sud à son inefficacité de réaliser les travaux. Il faut noter ici que la route nationale numéro 4 et surtout les tronçons qui sont en cours de réhabilitation, c'est une route d'une importance capitale dans les échanges commerciaux, notamment entre les provinces de l'Ituri, de la Tchopo, du Haut-Ouélé, voire même Bas-Ouélé, pourquoi pas même Kinshasa, où le produit passe par cette route. L'état écoulé, on faisait plus d'une semaine de parcourir cette fosse, mais grâce aux efforts du gouvernement central qui est en train de financer la société Good News, la circulation est fluide actuellement.
Rentrons à Kinshasa, la capitale, avec vous, d'où Jésus, pour savoir l'actualité qui vous a plus marqué cette semaine.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, je me suis intéressé à l'interpellation du député provincial Jared Panzou, l'élu de la commune de Bandalungwa. Il a interpellé le gouvernement de la ville de Kinshasa, mais aussi les ministres provinciaux des infrastructures, sur la mégestion, disons ça ainsi, la mégestion de la ville de Kinshasa. Vous savez, depuis son élection, aujourd'hui près d'une année, Daniel Bumba s'est distingué par plusieurs promesses non tenues malheureusement jusqu'aujourd'hui. Et c'est une action qui inquiétait d'ailleurs les Congolais, notamment sur les infrastructures routières. Bumba a annoncé qu'en février 2025, il y aurait déjà la livraison et la construction de 70 km de route. Et ça, les Kinois avaient, notamment les députés provinciaux, l'avaient élu, voté sur base de ses promesses, parce que 62 km de route ne représentent pas rien. La conséquence logique, c'est que ces routes devraient en principe désengorger Kinshasa, qui est enfoui à des embouteillages terribles. Malheureusement, une année après, rien n'est fait. Et donc, j'encourage cet élu de Kinshasa, j'arrête, parce que il sort du lot. De ce silence de l'Assemblée provinciale, nous avions constaté, nous, de la presse, que les députés étaient à fond sur tout le problème que connaît Kinshasa actuellement, notamment ces problèmes, les épineux problèmes des infrastructures, qui a pour corollaire logique les embouteillages terribles à Kinshasa. C'est impossible de circuler paisiblement à Kinshasa parce qu'il n'y a pas de route. Les infrastructures routières sont dans un état compliqué. Et autre chose, le gouvernement provincial a reçu du gouvernement central près de 60 millions de dollars. Et donc, les Quinois sont dans le droit de savoir effectivement à quoi aurait servi cet argent déboursé par le gouvernement central via le ministre des Finances pour justement des infrastructures routières. Et donc, pour une fois, c'est une première de voir Kinshasa s'intéresser finalement à la gestion du gouverneur. Au-delà de ça, il y a le problème d'insécurité, il y a le problème de plusieurs problèmes, notamment le grand marché Zando, etc. Alors il est important que finalement les gouverneurs s'expriment pour nous dire effectivement à quoi auront servi tout l'argent reçu pour la ville de Kinshasa, notamment sur le plan de l'infrastructure routière.
Merci à vous, à Belédou, d'où Jésus. Alors, comme décidé par le président de la République, les consultations nationales pour la formation du gouvernement d'union nationale ont commencé depuis lundi dernier. Les conseillers du président en matière de sécurité, Kachemir et Berand, reçoivent différentes délégations prêtes à faire partie de ces gouvernements, pendant que certains opposants politiques disent ouvertement que ces gouvernements d'union nationale n'est pas une solution à la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ni même la crise politique au pays. Avant de vous donner la parole, voici un récit des faits sur ces consultations avec Billy Ivan Lutumba.
Kachemir et Berand Kolongele, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, explique aujourd'hui qu'il s'agit d'une mobilisation nationale. Ainsi, lorsque la patrie est en danger, le chef de l'État a le devoir de mobiliser toutes les forces pour barrer la route à l'ennemi. C'est après son échange avec la Première ministre à son bureau. Rien ne cessait de cette rencontre. L'UDPS, comme première force politique, d'après son président intérimaire, Augustin Kabuya, rencontre le conseiller spécial, cette fois-ci dans son bureau temporaire retenu pour ses consultations dans la commune de la Gombe.
Nous n'avons pas posé des conditions comme telle. Comme vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti du chef de l'État. Et je me réserve de certains commentaires. J'ai échangé avec le conseiller spécial. C'est quand il va faire son rapport, à ce moment-là, je vais vous inviter à lui mettre.
Samalou Kondé, président du Sénat, à l'issue de son échange avec Eberhan, invite les autres forces à s'impliquer.
Nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale. Mais au-delà de ça, nous avons encouragé les échanges débutés ici par le conseiller spécial. Et nous invitons bien sûr toutes les autres forces telles qu'éditées dans les formats dans lesquels ils voudraient les recevoir.
Président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, explique pour sa part que face aux défis actuels du pays, il est tout à fait logique que des telles consultations se mènent pour identifier des acteurs à même d'y faire face. Dans la suite de ces échanges, mentionnons également la rencontre aujourd'hui avec Christophe Mbosso, André Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée.
Merci Billy Ivan Lutumba. Alors, comment trouvez-vous ces consultations pour un prochain gouvernement d'union nationale à partir de l'Ituri, Esdras Kahoma?
Oui, pour moi, Monsieur Freddy, la formation de gouvernement d'union nationale n'est pas qu'à répondre à la théorie du partage du gâteau entre les politiciens. Monsieur Freddy, vous êtes peut-être d'avis avec moi que depuis le début des consultations qui vont aboutir à la formation du gouvernement dit d'union nationale, les politiciens sont très agités, où chacun cherche son positionnement, et nous constatons que par rapport à la situation sécuritaire de l'Est de notre pays, caractérisée par l'agression rwandaise, il n'y a pas eu une forte agitation de la part des acteurs politiques pour une solution à cette crise, ni leur engagement pour la mobilisation massive. Nonobstant, certains membres du gouvernement se sont déployés sur le terrain pour mobiliser la jeunesse face à l'agression. Alors pour moi, la formation du gouvernement d'union nationale ne va pas en tout cas résoudre la crise sécuritaire qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo.
Pourquoi ça ne va pas résoudre? Et pourtant, le président de la République veut unir tout le monde.
Il y a l'opposition qui a boudé ces consultations. Il y a la société civile qui ne s'est pas encore bien exprimée pour emprunter les pas ces consultations. Voilà autant de points qui me poussent à dire que ces consultations qui vont aboutir à la formation du gouvernement d'union nationale ne va pas apporter une solution à cette crise.
Alors, que faut-il faire pour sortir de la crise politique et sécuritaire de l'Est, selon vous, Esdras?
Pour moi, la solution à la crise sécuritaire passe par la réorganisation d'abord au sein de notre armée, notamment le renforcement du commandement sur les lignes de front, chercher à améliorer les conditions de vie de nos militaires. Là, je parle des soldes et nos forces armées de la République démocratique du Congo, de la police. Faire également le suivi de ces primes, parce que vous savez, parfois le gouvernement débloque de l'argent pour payer les militaires, mais l'argent disparaît et il n'y a pas de sanctions aux gens qui détournent l'argent destiné à nos militaires. Mais également, vous dites, quelle solution? Il faut aussi renforcer la logistique de nos postes de défense et de sécurité. Du côté politique, pour mettre fin à la crise, il faut que chaque acteur animé d'un esprit patriotique puisse assumer chacun son statut, soit de gouvernant, soit d'opposant. Pour les gouvernants, de procéder à la gestion rationnelle des restes publics en évitant le détournement des deniers publics, l'impunité, le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, pour ne citer que ces éléments. Pour les opposants, de proposer des projets politiques alternatifs à ceux du gouvernement qui leur permettront de gagner la confiance de la population et d'arrêter la politique d'octroi que je m'y mette. Plusieurs opposants veulent simplement le départ du président Félix Tshisekedi dès lors que ce dernier exerce encore son mandat légitime.
D'accord, rendons-nous au Kassai avec vous, Crispin Focas. Nous sommes au cinquième jour de consultation. Comment trouvez-vous cette démarche?
Il faut dire que ces consultations sont une occasion pour le chef de l'État de chercher à mettre autour de la table les différentes parties prenantes dans la crise qui secoue la République démocratique du Congo, ce qui est une bonne chose. Mais il y a des petits soucis, c'est que quand vous voyez bien les opposants qui ont refusé de participer à ces consultations, qui ont déjà rejeté la main tendue de Félix Tshisekedi pour faire partie de ce gouvernement d'union nationale, vous constatez qu'il s'agit des opposants classiques. Parmi les grands opposants qu'on puisse compter ici en République démocratique du Congo, je vais, pas pour les citer, prendre l'exemple de Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Beli Sesanga, Franck Diongo et les autres. Si vous voyez déjà que ces opposants, les caciques qu'on puisse avoir, rejettent déjà ces consultations, rejette déjà ces gouvernements d'union nationale, je me demande avec quels opposants le professeur Eberandé va pouvoir mener ces consultations. Et vous comprenez aussi déjà que même au sein de l'Union sacrée de la nation, il y a déjà des petits remous entre le professeur Bahati, entre Vital Kamerhe est le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur Mbata. Vous avez vu comment ils ont alimenté la toile avec ce qui s'était passé. Donc vous comprenez déjà que ces consultations sont parties sur des bases un peu pas solides, et j'ai peur que le gouvernement qui va venir après, au lieu d'être un gouvernement d'union nationale, ne puisse être que une occasion donnée aux différents acteurs politiques de se partager les gâteaux, de se partager le pouvoir. Entre-temps, la crise à l'est du pays est en train de continuer, on va peut-être en parler. Entre-temps, il y a le social qui pose problème dans beaucoup de provinces, notamment ici dans la province du Kasaï central, où la population ne sait plus manger convenablement, où la population ne sait plus accéder à l'eau potable. Entre-temps, il y a d'autres provinces qui accusent beaucoup de difficultés sociales. Je pense que ces consultations doivent être des vraies consultations qui scrutent en profondeur le grand problème de la République démocratique du Congo. Et de ce fait, ça peut apporter des vraies solutions à la crise qui secoue le pays. Et si ce n'est que pour partager les pouvoirs, ma foi, je pense que ce sera des jours de trop. Ce sera des jours qui auront pris autant de fonds de l'État pour aboutir à des résultats qui n'apporteront rien au peuple congolais.
Alors, à vous attendre en tout cas, face à la crise actuelle au niveau de l'Est du pays et même la crise politique, est-ce la formation de ce gouvernement d'union nationale est une priorité?
La priorité, c'est il faut restructurer l'armée. L'armée est beaucoup infiltrée. Il y a beaucoup de généraux qui ne sont pas avec le pays, qui sont entre le pays agresseur et la République démocratique du Congo. Donc il faut commencer par restructurer cette armée.
Mais ils étaient dans la rébellion pour devenir officier supérieur, c'est normal.
Oui, ils étaient dans la rébellion pour être aujourd'hui officier supérieur, oui, mais est-ce que ils se sont débarrassés de cet esprit de rébellion? Puisque, vous savez, avec ce qui se passe à l'Est, il y a beaucoup de fonds qui circulent et je vois mal un militaire général qu'il soit, s'il est mal payé et qu'on lui tend des billets de banque qui dépassent à des milliers de fois ce qu'il touche comme salaire, je me vois mal comment il peut se retrouver devant une somme colossale comme celle-là et refuser de trahir son pays. Et aussi, je salue ce que le gouvernement a annoncé avec le fait là de doubler le salaire des militaires et des policiers. C'est déjà une bonne chose. Je pense que de cette façon, c'est une façon de stimuler, de pousser les militaires à avoir vraiment cette volonté de défendre leur pays et de se sacrifier sous le drapeau pour libérer ce pays des mains des ennemis et des agresseurs. Donc c'est des choses qu'il faut scruter en profondeur, c'est des choses qu'il faut revoir avant que nous puissions parler d'un gouvernement de l'Union nationale. On a vu avec l'ancien président Joseph Kabila, qui a aussi qui passait par des consultations pour mettre en place de nouveaux gouvernements d'union nationale. Vous connaissez tous les résultats. On a juste participé à des partages des gâteaux, mais le social du Congolais est resté statu quo et la crise à travers le pays et plus particulièrement à l'Est est la subdité. Donc je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment revoir au lieu de passer directement à un gouvernement d'union nationale. Donc si le social est résolu, si la situation, la question de l'armée est résolue, l'armée est refondée, l'armée est réformée, je pense qu'on peut maintenant penser à un gouvernement d'union nationale, puisque chaque parti aura trouvé son compte, aura trouvé sa part.
Revenons à Kinshasa, Belédou, d'où Jésus, vous êtes ici, nous avons vu, hein. Nous sommes au cinquième jour, mais ceux qui ont été consultés sont les mêmes.
Il ne faut pas se leurrer, lorsqu'on parle des objectifs même de ces consultations, c'est d'abord l'unité nationale, c'est le premier élément. Ensuite, c'est avoir un gouvernement qui va réunir tout le monde, tous les Congolais de tous bords, afin de s'autodéterminer en tant que peuple et débouter l'ennemi. C'est ça, en fait, en réalité, l'objectif. Alors, pour ça, il fallait d'abord qu'il y ait un consensus autour de ces consultations, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans la mesure où, les confrères l'ont dit, les grands opposants ou les caciques dans l'opposition se disent non concernés par ces consultations.
Ça fait un mauvais départ.
Ça fait un mauvais départ, le premier élément. Le deuxième élément, le président de la République a fait un très mauvais casting, je pense. Parce que il faut voir l'étoffe de la personne qui doit consulter toutes les parties. Cette personne doit faire l'unanimité, d'abord. Et ça, c'est le premier élément. De deux, cette personne-là doit aussi être issue d'une structure indépendante, plus ou moins, pour que certains se sentent concernés directement, parce que vous savez, les égos des uns et des autres continuent de primer, d'abord. Alors, est-ce que un sécurocrate aujourd'hui, Eberhand, qui est le spécial du président de la République en matière de sécurité, a-t-il l'étoffe pour faire l'unanimité? Non. Parce que, même en consultant, il y a une polémique autour de comment expliquer qu'un simple conseiller du président de la République va inviter, par exemple, la première ministre venir pour être consultée. Et c'est posé un problème, voyez-vous. L'étoffe, c'est et au niveau du poids qu'il représente, et au niveau de l'unanimité. Et donc, je pense que nous sommes partis d'un mauvais pied. Le deuxième élément qui fait en sorte que l'on s'éloigne davantage des objectifs voulus, c'est que c'est l'union sacrée qui consulte l'union sacrée.
Ils sont au pouvoir.
Mais non, mais oui, mais que voulez-vous?
Donc il n'y a rien qui
va changer. Que voulez-vous? Je le disais en blaguant, c'est comme quelqu'un qui allait planter les maïs et qui s'attend à un résultat, à la fin, avoir poussé par exemple la mangue. C'est impossible. Si vous consultez l'union sacrée, vous vous attendez à la fin à un gouvernement d'union nationale où il y aura des opposants, alors vous leurrez. Vous êtes convaincu de votre propre mensonge, mais vous le faites quand même.
C'est ça la politique, au
contraire. Oui, malheureusement, c'est ça. Alors, si, sur ce schéma-là, le problème aujourd'hui, notamment Kabila, qui a été considéré par le président de la République comme étant le vrai patron de l'AFC, il n'est pas partie prenante de ses consultations avec son AFCC, qui représente quand même quelque chose, parce qu'il y a les Binakou, les Chadari et les autres qui sont quand même des politiques de ce pays. Ils ne sont pas concernés, selon le président de la République. Kabila est un problème, il est avec Nang. De l'autre côté, il y a Moïse Katumbi, qui est dans une même dynamique aujourd'hui avec les autres opposants, notamment Fayoulou, Sesanga, Franck Diongo, Jean-Claude Vuemba, etc., qui pensent que sur ce format, ils ne peuvent pas venir à ces consultations. Et donc, ça veut dire que le problème demeure. Et autre chose, il y a aussi de l'autre côté l'opposition armée. Alors, si on veut faire l'unanimité, il faudrait aussi s'intéresser à la question des opposants armés.
Là, vous citez le M23.
Et le M23, l'AFC par exemple, bien qu'on nous a renseigné par le régime de Kinshasa qu'en principe ça n'existait pas, c'est l'agresseur rwandais. Mais il constitue le problème parce que lorsque Luanda par exemple change de narratif, parle d'un dialogue direct M23 et gouvernement de Kinshasa, ça veut dire que ces gens-là sont concernés et ils se sentent congolais. Et donc Freddy, ça c'est le deuxième grand problème de ces consultations. C'est l'union sacrée qui consulte l'union sacrée. Et pour prouver que c'est l'Union sacrée qui consulte l'Union sacrée, le même tard de l'Union sacrée sont ramenés aujourd'hui dans ces consultations. Les tards, c'est quoi? C'est que au sein de l'Union sacrée, il y a d'abord une guéguerre des positionnements entre les leaders, les grands leaders.
Les présidiums,
qui d'ailleurs a été catapulté en ouvrant cette présidence des six membres à 40 membres, c'était déjà un problème. Et aujourd'hui, les gens s'entrécusent.
Donc, on trompe le peuple.
Voilà, on trompe le peuple. Je pense, cher Freddy, que si ces consultations vont aller dans ce sens-là, il faudrait oublier totalement ces consultations parce que la solution ne passe pas par là. La solution à la guerre d'aujourd'hui, moi je pense à mon humble avis, passe par un gouvernement qui doit y avoir un remaniement avec un gouvernement dont on va réduire les membres. Je suppose même, moi, je pense que Soumy Nouadhé n'est pas un problème. Et donc, si nous voulons la paix, confions nos droits au Léviathan, intéressons-nous finalement à l'armée et à la police, pour que l'armée et la police nous déboutent l'ennemi. Mais si nous allons
à des conciliabiles de l'Union Sacrée, nous sommes en train de nous leurrer et de perdre les temps pendant ces temps à Walikale. Le M23 s'organise. Maintenant, vous avez suivi Bintou Keïta hier. Elle a clairement dit, pendant que vous vous faites des discours ici, le M23 sera vital à Walikale et il s'intéresse au Maniema et à Tchopo, à Kisangani. Et donc, continuez à se consulter avec Kinshasa à Gombe avec des belles vestes, cravates, etc. Pendant ces temps, l'ennemi n'est pas dans notre jeu des dupes.
Je comprends bien que vous tous, vous n'êtes pas pour ces consultations, vu la situation sur le terrain avec l'avancée du M23. Alors quittons ces consultations pour un clin d'œil sur la situation réelle socio-économique des Congolais dans l'espace dirigé par le Rwanda à travers le M23. Par exemple, à Goma, une ville qui était touristique, passe aujourd'hui 2 mois sans bancarisation. Aucune institution financière fonctionne. Même chose pour la ville de la résistance Bukavu, 1 mois sans banque. Pas de salaire aux agents des ONG et ceux de l'État congolais. Face à la difficulté de la liquidité tombante, le M23 tente d'injecter des billets de banque dans la masse monétaire en circulation dans sa zone de contrôle via les services de la CADECO, qui est la caisse d'épargne et de crédit, surtout pour les agents de l'État congolais. Chose qui divise même l'opinion. Alors, suivez les explications de Élisée Kavira.
Depuis l'occupation des villes de Goma et Bukavu, la population fait face à une pression économique sans précédent. Les banques et microfinances sont fermées, les activités économiques presque inexistantes dans certains secteurs. Les entreprises, les hôpitaux, les ONG, les services étatiques sont obligés de réduire les salariés ou tombent carrément en faillite. Cette situation a fait l'objet de plusieurs rencontres de sensibilisation entre les responsables de la rébellion et plusieurs couches socio-économiques, notamment la FEC, les changeurs de monnaie et autres. À l'annonce ce mercredi de la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante de la CADECO, notamment des membres du conseil d'administration et du comité de gestion, les réactions divergent du côté des opérateurs économiques notamment. Les uns pensent que le mouvement rebelle aurait des partenaires prêts à investir des fonds pour faire fonctionner la CADECO. C'est notamment pour permettre à la population d'accéder aux crédits non remboursables et faire tourner les activités localement, mais aussi comme guichet unique pour collecter les taxes et impôts au profit de l'administration rebelle. D'autres opérateurs économiques sont sceptiques quant à cette option. Selon ces derniers, la population ne fait pas encore confiance à la rébellion et aura des craintes de perdre son argent une fois déposé dans cette structure. En outre, l'aéroport de Goma étant fermé, les activités économiques sont sensiblement réduites, ce qui ne va pas permettre à la CADECO de fonctionner normalement. En effet, la CADECO ne fonctionne pas comme une banque. Elle ne peut pas faire des transferts de monnaie sans un code SWIFT qui dépend d'un pays souverain, rappellent nos sources.
Merci Élisée Kavira. Comment analysez-vous cette démarche du M23 d'ouvrir la CADECO d'où Jésus?
Mais vous avez écouté le reportage qui est tellement éloquent et riche, c'est que ça sera difficile. La CADECO n'est pas une banque. Ça sera difficile.
Il n'y a pas un code de SWIFT. Hein?
Exactement, pour envoyer de l'argent à l'étranger, etc. Et donc, ça ne fera qu'asphyxier davantage les populations dans cette partie du pays. Je pense que cela met à nu les objectifs même de ceux qui prétendent libérer la RDC. Vous savez, on ne peut pas prétendre libérer les Congolais dans une ville comme Goma, une ville touristique, vous l'avez dit, de plus de 2 millions, 3 millions d'habitants. Vous dites que vous voulez libérer Goma alors que vous venez davantage asphyxier. Au-delà de l'asphyxie, vous avez pillé les boutiques des gens, vous avez pillé le peu d'économie que les gens avaient. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. En ce qui concerne les hôtels, notamment, vous avez pris en otage pratiquement tous les grands hôtels pour loger la rébellion, consommer gratuitement. Vous avez paralysé les activités économiques, mais vous vous attendez quand même à ce que la population ou les populations vous soutiennent. Ce scénario rappelle exactement ce qui s'était passé avec le Japon et la Chine. Les Japonais, ils ont colonisé les Chinois. Certains ont prétendu à libérer les grandes villes chinoises. Mais il y a une résilience des Chinois. Les Chinois ont dit non, nous ne pouvons pas vous accompagner. Parce qu'en réalité, l'envahisseur ne vient pas développer un pays. L'envahisseur, lorsqu'il arrive, c'est pour vous affaiblir davantage, vous anéantir et prendre tout ce que vous avez et finalement repartir. Parce que Bukavu et Goma, et comme les grandes villes, ne resteront pas éternellement sous le joug du Rwanda. Ceci veut dire...
Donc la population à un moment va en tout cas se défendre.
Ceci veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça met à nu le fait que ce n'est pas le M23, ce n'est pas l'AFC des Nanga. En réalité, c'est le Rwanda qui est asphyxié. Parce que c'est le Rwanda, selon plusieurs rapports des Nations Unies, qui occupe, qui appuie les rebelles pour justement prendre des grandes villes. Et maintenant que le Rwanda elle-même se retrouve dans une situation très difficile, il y a eu arrêt des financements, des coopérations latérales, multilatérales, les coopérations militaires au niveau international. Le Rwanda, qui n'a pas sur son sous-sol les minerais pour exister en tant que pays, en tant que nation, qui ne se contente que des aides à l'international. Le Rwanda qui n'a que pour minerais ou bien pour ressources, les pillages de nos ressources, parce que le Rwanda, il était prévu en 2025 sur l'exploitation de l'or, que le Rwanda vende à l'international 1,5 milliard de dollars. Aujourd'hui, le Rwanda, ne pouvant plus vendre cela parce que ces minéraux sont sous embargo, ils sont totalement en difficulté. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils pillent tout ce qu'ils trouvent. Et la conséquence, c'est que c'est les provinces de la RDC, Bukavu notamment, les grandes villes, qui vont en pâtir.
Et pourquoi le banque n'ouvre pas à Goma et à Bukavu?
Mais comment est-ce que les banques ouvriront dans ces contextes? Dans un contexte, je vous l'ai dit ici, où les banques déjà étaient la cible de la rébellion. La conséquence maintenant, c'est que la ville sera asphyxiée. Et donc, je pense que cela met simplement en nu, comme je le disais ici, les vraies intentions du M23 et de l'AFC, ce n'est pas d'aider les Congolais dans les zones occupées. En réalité, les vraies intentions, c'est justement de les asphyxier davantage et de servir le Rwanda.
Crispin Focas Mayimbu, l'argent ne circule pas depuis Bunagana, Rutshuru, Goma, Kalehe, même arrivé à Kamanyola. La masse monétaire en circulation est vraiment en difficulté et cela pousse le M23 à ouvrir la Kadeko. Qu'en pensez-vous?
Le M23 se trouve asphyxié, ne pouvant pas arriver à résister financièrement. Voilà pourquoi il se livre à piller même les véhicules des particuliers, à dévaliser les maisons. Et je me demande, même si la Cadeco ouvrait comme le M23 même l'initiative, croyez-vous que les domatraciens qui traversent déjà des conditions de vie très compliquées peuvent aller garder leur argent dans cette caisse qui n'est qu'une caisse d'épargne, qui n'est pas une banque à proprement parler. Donc je pense que c'est une initiative qui ne tiendra pas debout, puisque moi je ne vois pas un investisseur dans le domaine des banques aller à Goma, aller à Calais, toutes ces localités-là occupées, pour aller implanter sa banque et commencer ses activités financières. Donc c'est une initiative qui ne pourra pas aller de l'avant, qui ne pourra pas faire grand-chose, puisque jusqu'ici, la population de l'Est n'a plus confiance dans les M23. Vous voyez avec ce qui s'est passé à Bukavu et dans d'autres villes, vous voyez les gens qui sont sur la rue en train de manifester pour dire leur ras-le-bol devant les exactions de M23. Donc ça montre que cette population est déjà à bout de toute cette criminalité qu'elle a vécu avec les M23, et cette population veut vraiment se libérer, puisque j'ai eu à causer avec certains membres des familles qui sont à Goma, à Bukavu, et ils disent que ça ne va pas, ils ne savent pas tenir le coup de la vie.
Crispin, où est-ce que les M23 pourraient trouver les billets de banque, parce que c'est une caisse d'épargne, le franc congolais, par exemple?
C'est ça le plus grand problème. Est-ce que le M23 ne voudrait pas développer ce qu'on appelle le système de blanchiment d'argent, introduire par exemple de faux billets, puisqu'on en a vu avec d'autres mouvements rebelles? Est-ce que c'est pas vers ça que le M23 est en train de prouver? Et puisque personnellement je me demande d'où viendraient ces billets de banque. Ces billets viendraient-ils de Goma, de Bukavu, du Rwanda? Où ces billets viendraient de la capitale Kinshasa, puisqu'il n'y a que Kinshasa qui peut envoyer des fonds pour que la CADECO puisse fonctionner. J'ai peur que le M23, comme c'est un mouvement rebelle, puisse introduire des faux billets dans la circulation qui peuvent encore ruiner davantage la situation financière de la population de l'Est. Et là, j'attire l'attention du gouvernement central sur la circulation monétaire. Il faut que le gouvernement ouvre l'œil et le bon, puisqu'on sait déjà que nous sommes infiltrés, le pays est infiltré à un très haut niveau. Il faudrait que le gouvernement ouvre l'œil et le bon pour savoir toute sortie d'argent, où est-ce que ça va, dans quelle ville ça part, qui est en train de tracter cet argent.
Esdras Kaouma, comment trouvez-vous l'ouverture des services au niveau de la CADECO à partir de Goma dans la zone occupée par les M23?
Ouais, avant d'abord de donner mon point de vue par rapport à cette tentative de M23 de rouvrir la CADECO dans la ville de Goma, permettez-moi de présenter d'abord mes compassions à nos sœurs, à nos frères de Goma et de Bukavu, mais aussi des autres localités qui vivent les calvaires suite à l'occupation rebelle sous couvert de la FCM23 tenue par le Rwanda. Monsieur Freddy, les rebelles de la FCM23 se retrouvent affaiblis comme mes collègues, mon confrère l'ont dit précédemment. Se retrouvent affaiblis financièrement. Voilà pourquoi ils sont en train de dépier d'abord la population et tentent même de fuir la CADECO. Cette aventure que l'AFCM23 est en train de faire ne va pas marcher. Les collègues viennent de dire.
Esdras, à l'époque du RCD Goma, d'Azarias Rubéroa, nous avons vu à l'est du pays, dans l'espace contrôlé par le RCD Goma, des faux billets de francs congolais, de faux billets de dollars qui circulaient jusqu'à Kanyabayunga et que le gouvernement avait du mal à contrôler la circulation de l'argent. Est-ce qu'ADECO ne sera pas un tremplin pour cela?
C'est en tout cas la peur que nous avons aussi. Comme je l'ai dit tantôt, cher Freddy, comme l'AFCM23 se retrouve affaibli et en train de se rabattre sur la CADECO en tentant réouvrir cette caisse d'épargne. Et ce que je pense, le gouvernement doit faire pour rétablir la sécurité dans les zones sous occupation pour ne pas tomber dans ce cas de faux billets qui commenceront à circuler dans les zones sous contrôle. Vous savez, cette rébellion est affaiblie par le fait qu'elle n'a plus de moyens. Et elle est en train de se rabattre sur la population. Ça fait subir les collègues. C'est rebelles qui s'en battent à piller les biens de la population, notamment des grands magasins. Il y a par exemple la maison Haoujoué qui a vu perdre plus de 900 motos. Est-ce que des gens qui viennent dire qu'ils veulent libérer le pays, comment comprendre s'ils peuvent se mettre au pillage? C'est incompréhensible et je passe cette aventure de rebelles AFCM23 de rouvrir la CADECO ne va pas aller de l'avant, car la population ne va pas aussi donner leur faux. Elles savent que la rébellion prendra toujours fin, même si ça tue.
Tribune de la presse touche à sa fin. Je vous dis merci. Esdras Kaouma, journaliste et directeur de la radio communautaire Nyanya, Amkeni, Anituri. Beledou Dou Jésus, journaliste et éditeur de Liberté.net, ici à Kinshasa. Merci à vous aussi, Crispin Focas Mayimbu, journaliste et reporter et directeur général de la radio Soleil FM émettant à Kananga, au Kasaï Central. Au nom de toute l'équipe de la Tribune de la Presse, Kelly Kouté, Guy Maté et Martin Sebudjango et qui l'a supervisé, Mimi Kindou et à la technique, à la présentation, c'est moi, Freddy Bikumbi Ignace. Au plaisir de vous retrouver sur la radio de la paix, Okapi.